Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Alors, dans le cadre des navigateurs des 18 et 19e siècles, nous allons parler d'Eugène Sue et de Gabriel Aubaret. C'est un peu paradoxal, on peut les qualifier de navigateurs inconstants. En effet, en apparence, ces deux notables culturels n'ont rien à faire ensemble. Ils ne se sont sans doute jamais rencontrés et n'ont jamais évoqué amicalement leurs souvenirs maritimes. Pourtant, ils ont en commun d'avoir connu une première partie de vie vouée à la mer, pour l'abandonner ensuite dans une vie toute continentale qu'elle continuera pourtant à imprégner malgré eux. Sue et Aubaret ont aussi en commun d'être des hommes de la première moitié du XIXe siècle, l'un né en 1804, l'autre en 1825, à la charnière de deux mondes, de deux époques, dans une Europe où tout fut créé, du moins pour les Européens. Et où, dans un essor économique sans précédent, une ascension sociale et la notoriété étaient relativement faciles à atteindre. Éduqués sur fond d'ancien régime et d'aventures révolutionnaires puis impériales, ils quittèrent ce monde dans les balbutiements de la grande industrialisation, de l'énergique vapeur, des spectaculaires progrès de la connaissance hygiénique et médicale, des maladroites pétarades du moteur à explosion. Marie-Joseph Sue, qui plus tard se fit prénommer Eugène en hommage à son parrain, est née en janvier 1804 à Paris, au sein d'une très aisée dynastie de médecins et de chirurgiens. Deux des trois témoins de l'établissement de son acte de naissance sont Eugène de Beauharnais, colonel commandant de la garde des consuls, ainsi que Joséphine, je cite, « épouse du citoyen Bonaparte, premier consul de la République ». Son enfance est, disons, dorée, comme écrivent ses biographes, et se déroule dans le quartier de la Madeleine. Il est le fils du médecin-chef de la garde impériale, que d'ailleurs les successifs changements de régime politique n'affecteront guère. Vif, intelligent, mais dissipé et frondeur, il fait de fort médiocres études, puis, à peine adolescent, mène joyeuse vie, fait la noce et accumule les dettes. La vie parisienne l'enchante. On est sous la Restauration. Son père, très autoritaire et notable, l'oblige à faire d'approximatives études de médecine et le fait nommer chirurgien surnuméraire à l'hôpital de la Maison militaire du Roi. Puis, excédé, il lui obtient un poste d'auxiliaire médical dans les troupes royales chargées de veiller sur l'Espagne où les libéraux se rebellent contre l'absolutisme de Ferdinand VII. Eugène Sue parcourt ainsi l'Espagne jusqu'à Cadiz, mais il n'a aucune chance de devenir médecin. Il perd son temps, il est affecté à l'hôpital militaire de Toulon, puis rentre à Paris où il retrouve sa joyeuse bande de journalistes, d'écrivains, de musiciens, au sein de laquelle ses meilleurs amis sont Adolphe Adam et Alexandre Dumas. Il commence à écrire des articles. Son premier texte paru date de janvier 1826, suivi de trois autres. Mais sa plume est acerbe, ses comportements sont suspects, son train de vie trop fastueux. Il doit être éloigné. Ce fils est trop voyant pour son père, une fois de plus. Il est nommé chirurgien auxiliaire de troisième classe de la Marine royale et Eugène Sue embarque, presque de force, le 21 février 1826 sur la corvette de charge Le Rhône, qui le mène pendant plus d'une année dans les Antilles puis en Orient. Marin malgré lui, il apprend beaucoup. En fait, il engrange toutes sortes de connaissances, de sensations, d'images, de portraits, qui plus tard lui serviront dans ses romans. Au printemps 1827, il passe sur la frégate Le Foudroyant, qui l'emmène en Guadeloupe et vers les autres îles à sucre. Puis, le Breslau l'emporte vers la Grèce et sa guerre d'indépendance. Il est fasciné, mais aussi écœuré par la guerre et les manœuvres maritimes, et aussi, il faut bien le dire, les intrigues politiques. Eugène Sue demande alors à être débarqué en janvier 1828, ce qu'il obtient facilement après avoir mené une dernière campagne en Martinique, puis il quitte définitivement la marine au début de 1830 et rejoint Paris. 4 années à peine de vie maritime, de navigation et de service, sans aspérité. En mer, il n'est pas question de faire le trublion. On en a peu de témoignages, mais ces années illumineront la mémoire de Eugène Sue, lequel commencera sa carrière littéraire par des romans dits « maritimes » dans le style anglais, puis nourriront plus tard les pittoresques portraits et circonstances des romans qui font sa réputation, les plus connus étant « Le Juif errant » et surtout les fameux « Mystères de Paris ». Son premier récit maritime est une nouvelle, parue en 1832, Le Parisien en mer, très inspiré d'ailleurs de ses propres expériences. Dandy flamboyant, Eugène Sue, définitivement terrien et surtout parisien, obtiendra au surplus de la marine en 1834 d'en utiliser les archives pour écrire une monumentale histoire de la marine française depuis le XVe siècle, ce qui prouve son attachement moral à cette institution qu'il n'a fait qu'épleurer. Trublion politique, Eugène Sue décédera en août 1857 en exil. Gabriel Louis Galdéric Aubaret eut une vie plus sage. Né en mai 1825 à Montpellier dans une famille de juristes fort aisés, rien ne présageait de sa double attirance, l'Orient et la mer. Mais, adolescent, il fut influencé par le parrain de sa sœur aînée, un capitaine de corvette, tellement ébloui par l'Empire ottoman et l'Asie qu'il demanda à prénommer sa filleule Salima. Les récits de cet homme enflammèrent le cerveau du jeune Gabriel. Il choisit l'école navale où il est reçu en 1841 et découvre un univers qui l'enchante. Il écrit des lettres enthousiastes à sa famille et se met à l'étude des langues et dialectes de l'Orient. Il apprend le turc, établit des répertoires de divers dialectes. Amoureux malheureux à Smyrne, il obtient un congé de 2 ans pour participer à une expédition en Égypte demandée à Ferdinand de Lesseps par Saïd Pacha pour élucider l'épineuse question des sources du Nil. À la suite de complexes conflits de personnes, Gabriel Aubaret devient, sur le terrain, le véritable chef de cette expédition. Il reprend la mer vers la Cochinchine, son navire relâche à Singapour. Aubaret découvre, je cite, « l'étonnante simplicité du malais, engrange l'anamite, dont il commence un dictionnaire, qu'il trouve plus simple que le chinois, langue qu'il apprend sous l'égide d'un chinois professeur rémunéré par la marine française. » La guerre de Crimée rappelle Aubaret en Turquie, où sa parfaite connaissance de la langue le rend très utile. L'amiral Ferdinand Hamelin, commandant en chef les opérations conjointes avec l'Empire ottoman, l'envoie sur le Mahamoudié afin de coordonner les manœuvres de la flotte turque avec les unités françaises. Même si la victoire de l'Alma ou le bombardement de Sébastopol ne furent pas absolument décisifs, ces 2 mois de campagne décidèrent, elles, de la suite de la vie de Gabriel Aubaret. Il décide d'abord que la guerre maritime ne lui convient pas et il démissionne de la marine. Puis, il choisit de rester en Orient et de contribuer à la solidification de la présence française en Asie. Sous l'égide du ministre de la Marine et des Colonies, Prosper Chasseloup-Loba, et à la suite du traité qui est conclu avec l'empereur d'Annam, Tuduk, en juin 1862, lequel cède 3 de ses provinces à la France contre indemnité, Gabriel Aubaret débarque à Saïgon avec le titre d'inspecteur des affaires indigènes. Son dernier commandement maritime, d'ailleurs, sera celui de l'aviso qui l'amène en Indochine. Commence alors une carrière diplomatique importante. Il est mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères, chargé des relations avec les Annamites, dont il reçoit une délégation à Paris en 1865. Il est également chargé de nombreuses négociations, d'accords notamment commerciaux avec la Nam et la Chine. Son rôle dans l'implantation de la religion catholique est à signaler également. Toutefois, dans ses correspondances privées, il évoque souvent son désaccord profond avec certaines méthodes coloniales et l'état de misère dans lequel le colonisateur laisse la population. Aubaret est un temps consul à Bangkok, puis il est rappelé en Europe orientale pour participer au démantèlement de l'Empire ottoman. Aubaret sera successivement nommé en Albanie, puis à Smyrne et en Bulgarie en tant que consul. Puis il présidera la commission de délimitation des frontières de la Serbie à la suite du traité de Berlin de juillet 1878. Mission fort délicate qu'il mena pendant plus de 3 années avec de nombreuses expéditions de terrain. Il faut bien le dire, déjà les Serbes, Kosovars, Monténégrins se chamaillent sur la répartition des terres et des biens. Connaissant le turc, l'albanais, le serbe et d'autres dialectes, Aubaret sert en fait d'interprète officiel à sa propre mission. Gabriel Aubaret fait remarquer dans un courrier privé que, je cite, « les puissances imposent à la Turquie ce qu'elle ne supporterait pas chez elle ». Ni vraiment diplomate, ni non plus visionnaire du tout, Aubaret décelait déjà à la fin de sa brillante carrière, je cite encore, « la nécessité d'États-Unis d'Europe ». Cela émane d'une lettre privée de 1885. Ces deux hommes, Aubaret et Su, sont intéressants, car tel le héros de Yukio Mishima, ces deux hommes ont abandonné la mer, qui pour eux ne fut qu'un véhicule, un passage, un transit, leur permettant d'accéder plus tard à leur véritable vocation. Le vocable japonais employé par Mishima pour titre de son roman « Gogo no Eko » a été traduit de manière ambiguë de 2 manières différentes. Transposé en français, le titre de ce roman de Mishima peut être « Le marin qui abandonna la mer » ou « Le marin rejeté par la mer ». Donc, le lecteur choisira devant cette interrogation. Pour Eugène Su, une bibliographie très intéressante vient de paraître. Eugène Su, chirurgien de la marine et écrivain maritime, dû à Michel Sardet, chez Pharmathème, aux éditions Communication Santé. Cet ouvrage bénéficie en outre d'une des toutes dernières préfaces écrites par le grand Étienne Taimite, historien de la marine, ancien président de l'Académie de marine, décédé en septembre 2011. Sur Gabriel Aubaret, un très joli article intégré au mélange offert au doyen Breillat aux éditions de la faculté de droit de Poitiers, dû à Marie-Françoise Valette de l'université de Poitiers, et bien sûr le fameux Gabriel Aubaret par Fernand Noah, ouvrage un peu ancien, presque introuvable, en dehors de la bibliothèque de l'Institut.